Cinéma Cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, James Gray. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors, en ce moment, nous parlons de réalisateurs contemporains, comme James Cameron, déjà vu, David Cronenberg aussi, et là, c'est James Gray. Alors, ce ne sont pas les 50 nuances de Gray, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, même si l'orthographe est la même, G-R-A-Y. James Gray a fait une dizaine de films et a souvent abordé la même thématique. Alors, je vous donne les films, comme ça vous pourrez le situer. Little Odessa, en 1994, The Yards, 2000, La Nuit nous appartient, 2007, Two Lovers, 2008, The Immigrant, 2013, The Lost City of Z, 2016, Ad Astra 2019 et Armageddon Time qui vient de sortir il y a quelques semaines. Donc, un réalisateur que vous connaissez peut-être à travers tel ou tel film, quand on cite The Immigrant par exemple, c'est peut-être le film qui a été le plus connu en France, mais les trois films initiaux, Little Odessa, The Yards, La Nuit nous appartient, sont particulièrement intéressants à cause de la thématique qui apparaît dans ces questions. Alors, je passe assez rapidement sur, je dirais, la biographie rapide de James Gray. En fait, sa famille vient de la Russie et aux États-Unis. On verra James Gray habiter à Little Odessa, puis à d'autres quartiers comme le Queens. Et il va donc connaître déjà des approches, je dirais, presque sociologiques ou qu'il maîtrise parfaitement sur ces quartiers. Alors, il a ensuite lancé très vite un film, puisque Little Odessa va sortir en 1994, alors qu'il a 25 ans. Alors, pour évoquer rapidement les films avant de revenir sur chacun, la thématique de Little Odessa, The Yards, La Nuit nous appartient, c'est toujours la thématique de la famille et de la police face aux délinquants. Et je vais y revenir tout à l'heure. Cette trilogie a vraiment une identité, a une force vraiment extrême. Alors après, Two Lovers, c'est, je ne dirais pas le film romantique de James Gray, mais un film où un homme est partagé entre deux femmes complètement différentes, celle qui est plutôt sage, d'une famille calme, et l'autre qui est un petit peu, je dirais, faux-folle, et qui le perturbe fortement. The Immigrant, alors là c'est Marion Cotillard qui fait une immigrante polonaise aux États-Unis. Celui qui est peut-être le plus original, c'est The Lost City of Z, où on voit un homme qui est fasciné par l'Amazonie et qui va être envoyé là-bas pour découvrir ce qu'il peut découvrir. Et lui va revenir avec l'idée qu'il y a une cité et qu'il faut qu'il revienne pour découvrir cette cité. Ad Astra, c'est un film de science-fiction où on voit Brad Pitt qui cherche à retrouver son père, Tommy Lee Jones. Et Armageddon Time, c'est le dernier. Là encore, c'est la famille et l'image du grand-père. L'image du père, c'est vraiment un des éléments qui apparaît le plus souvent dans l'œuvre de James Gray. Et dans les premiers films, l'image de ce rapport entre délinquants et police. Nous avons non pas Martin Scorsese ici, mais une originalité plus forte, puisque le rapport entre délinquants et policiers est doublé d'un rapport au sein de la famille, et toujours avec l'image du père. Alors, Little Odessa, premier film, on a Tim Ross qui fait un tueur à gages, et qui revient dans son quartier. Il va avoir comme mission de tuer un bijoutier, et il va retrouver sa famille. Alors, on a son frère qui reprend contact avec lui. Donc déjà la thématique, le héros tueur à gages et le frère. Et il va le conduire chez leurs parents avec un problème immédiat d'autorité, le père étant particulièrement violent et despotique. Et cela va toujours se passer très mal avec Tim Ross. Et donc le frère, fasciné par son aîné, c'est une thématique qui va réapparaître aussi, mais de manière différente, dans le film suivant, c'est-à-dire le film The Yards. Alors The Yards, on va écouter tout de suite la musique et je vous en parlerai après. The Yard, donc, film, là encore, où la famille est au centre du sujet. On a Mark Wahlberg qui sort de prison et il va retrouver sa tante. Il veut un travail honnête. Il veut rentrer dans le rang et ne plus être arrêté pour ses faits. Donc, il va essayer d'obtenir un travail grâce au mari de sa tante, qui est James Caan, grand acteur, qui joue ici un de ses derniers rôles important, je dirais. Donc la société de James Caan va faire des contrats pour l'entretien du métro et James Caan propose du travail donc à Mark Wahlberg. Celui-ci accepte, mais il se rend compte qu'il a besoin de plus d'argent qu'il ne souhaitait et alors il va se rapprocher du fiancé de sa cousine qui est joué par Joaquin Phoenix. Alors je précise qu'il y a Joaquin Phoenix, parce qu'il va jouer, c'est l'acteur auquel James Gray fait le plus appel, Joaquin Phoenix. Et là, il fait un délinquant qui est un petit peu déséquilibré, c'est peut-être un petit peu fort, mais qui travaille en tout cas pour James Caan, non plus dans le domaine légal, mais dans le domaine illégal. Et là, il va faire passer Mark Wahlberg dans le domaine illégal, avec donc des sabotages, avec une concurrence sauvage des entreprises concurrentes. Donc la violence est présente, la famille est présente, et Joaquin Phoenix est présent, si je puis dire. Alors la trilogie, c'est La Nuit vous appartient, donc 2007, et on peut dire que ces trois films se rapprochent à travers cette délinquance et cette police, les liens ambigus qui sont noués entre elles, et on a toujours ce personnage qui est ici Joaquin Phoenix, qui est entre la volonté de rester dans la légalité et de trouver une solution plus rémunératrice dans l'illégalité. Donc il tient, Joachim Phoenix, une boîte, et dans cette boîte, donc, il y a de manière régulière un chef de gang, et le chef de gang est le neveu du propriétaire. Donc, Joachim Phoenix est obligé de l'accepter, même si cela le gêne. Et il est d'autant plus gêné que dans sa famille, son père est commandant de police et son frère est capitaine de police. Donc l'opposition se fait entre les deux, le père et le fils, et le fils et le frère. Le fils qui est à la fois le frère. Donc la position de Joachim Phoenix est difficile. Il va petit à petit considérer qu'il faudrait éliminer le délinquant qui est particulièrement violent et entrer en quelque sorte dans le jeu de la police. C'est ce qu'il va faire. Il va se trouver intégré dans les opérations policières et il va petit à petit se rapprocher parce que celui qui a tué son père, ce délinquant violent, celui qui a tué son père, il va finir par le tuer à son tour et il va rentrer dans la police. Donc cette histoire familiale se termine à la fois mal et bien, mal puisque le père est mort, et le frère policier va se mettre un petit peu à l'écart parce qu'il a été vraiment plusieurs fois subi des tentatives d'assassinat. Donc le personnage de Joachim Phoenix rentre dans le rang et finalement on pourrait faire une comparaison avec Bac Nord pour la France. Bac Nord, c'est les quartiers de Marseille, les quartiers nord de Marseille, et on a dans le film une forme d'ambiguïté sur le rapport entre l'ordre et la délinquance, puisque les policiers de Bac Nord sont obligés en quelque sorte de se lancer dans la délinquance pour coincer les délinquants, et cela les conduira pour certains d'entre eux en prison. Donc ici il y a ce plaidoyer, mais effectivement la police n'est pas blanc-bleu, si on peut dire. Donc la situation, c'est qu'il y a un retour vers l'ordre de Joaquin Phoenix et finalement un triomphe en quelque sorte de la légalité contre l'illégalité. Donc voilà pour cette trilogie qui est particulièrement intéressante, notamment par la place du père dans le film, dans le scénario. Et cette histoire du père reviendra dans les films de James Gray postérieurs. Alors 2008, c'est Toulouse. Alors Toulouse est un film un petit peu à part dans la filmographie James Gray, puisqu'on a un rapport amoureux. Alors un rapport amoureux chez James Gray, c'est pas vraiment simple, puisque le héros doit choisir entre une relation stable d'une famille amie de sa famille propre et une femme un petit peu déséquilibrée, volage, qui a un amant qui est marié et qui ne sait pas trop si celui-ci va le quitter ou pas le quitter. Alors là, le personnage qui est celui, encore une fois, donc de Joaquin Phoenix, va être véritablement coincé. On sent qu'il a une préférence pour la fille qui est un petit peu déséquilibrée, et l'autre plus sage, qui conduirait à un rapport entre famille et une sorte de mariage arrangé, on sent qu'elle l'attire moins. Sauf que quand la fille lui dit « Voilà, l'homme marié m'a abandonné », et à ce moment-là, Joaquin Phoenix va lui dire combien il est amoureux d'elle, qu'il veut partir avec elle, et il lui achète une bague de fiançailles. Et il y a une fête organisée chez ses parents, et Joaquin Phoenix, sans rien dire, veut partir. Et cette bague qu'il a achetée pour cette femme quelque peu volage, il veut la lui donner. Et quand il part, sa mère le voit et sa mère comprend qu'il y a un problème et qu'il veut partir. Sauf que cette fille va lui dire « Mais non, finalement, je crois que l'homme marié va revenir vers moi. » Et à ce moment-là, il part sur la plage, il va hésiter sur ce qu'il peut faire et il va rentrer chez ses parents. Il va offrir à la jeune fille, qui est à la fois mariage arrangé, mais pour laquelle il a quand même un peu de sentiment, il va lui offrir la bague. Voilà, donc c'est vraiment une ambiguïté, en particulier cet achat de bague qui va finir par être attribué à celle à laquelle on ne pensait pas qu'il soit attribué. Alors, on arrive à un film qui, pour moi, est un de mes préférés, c'est-à-dire The Immigrant. Alors là, avant de parler de The Immigrant, écoutons la musique. The Immigrant. Alors ici, on a une Polonaise et sa sœur qui vont débarquer à Ellis Island. Qu'est-ce que c'est que Ellis Island qui se trouve pas loin de la Statue de la Liberté? Coppola l'a montré dans Le Parrain 2, où on voit le jeune Vito arriver seul à Ellis Island et on ne va pas lui donner son nom. Et on voit marqué Corleone sur le papier qu'il a sur lui. Et à ce moment-là, le contrôleur ou celui qui va permettre de passer ou pas va l'appeler Vito Corleone. Et cela restera son nom. Donc, Chaplin aussi, dans L'Immigrant, avait montré cette arrivée dans le port de New York. Alors, le personnage principal est joué par Marion Cotillard. Et le personnage masculin principal est joué, deviné, par Joaquin Phoenix, là encore. Alors, il va aider Marion Cotillard à venir à New York et passer les barrières. Mais le problème, c'est que sa sœur, qui est tuberculeuse, va rester pendant plusieurs semaines en observation. Alors, le problème, ce que Marion Cotillard ne sait pas, c'est qu'en fait, Joaquin Phoenix a manipulé celui qui devait le chercher, qui était son oncle, en lui disant, on l'apprendra plus tard, qu'elle est une prostituée. Et donc, le destin de Marion Cotillard va se jouer en permanence avec Joaquin Phoenix. Quand elle ira un tiers du film après chez son oncle et sa tante, elle arrive à partir et elle croit trouver un havre de paix. Sauf que quand elle est chez eux, le lendemain matin, la police arrive et son oncle, en fait, la jette violemment et la renvoie à la police. Alors, il est certain que quand Joaquin Phoenix récupère en quelque sorte Marion Cotillard, c'est pour en faire une danseuse dans son cabaret et surtout une prostituée. Donc, il va mettre en place un mécanisme assez pervers pour la pousser à devenir prostituée. En lui expliquant que comme ça, elle prendra l'argent et elle pourra sauver sa sœur. Donc, le personnage de Joaquin Phoenix n'est pas très séduisant, si je puis dire. Et Marion Cotillard, elle, passe d'un état de jeune vierge à un état de prostituée habituée. Et là où le film trouve son sens, si je puis dire, c'est dans ce rapport d'amour impossible entre Joaquin Phoenix et Marion Cotillard. Il y a un rapport d'une pureté et d'une causticité mêlée. En effet, donc Joaquin Phoenix l'a en apparence sauvée, en réalité recrutée comme danseuse et prostituée. Mais au fur et à mesure que le temps passe, Phoenix devient de plus en plus amoureux de Cotillard, alors que celle-ci devient de plus en plus vénale. Elle veut de plus en plus d'argent et elle en réclame de plus en plus à Joaquin Phoenix. Et on pourrait dire qu'au fur et à mesure qu'elle demande de l'argent, celui-ci devient de plus en plus amoureux. Donc c'est une situation assez forte qui va dominer le film. Alors, il y a des personnages secondaires, des prostituées, le cousin de... là encore un cousin, hein, le cousin de Phoenix qui est joué par Jeremy Renner, qui va être plus ou moins amoureux à son tour de Cotillard. Et ce qui est abouti, pour ne pas raconter quand même tout le film, à la scène finale. Alors il y a une force exceptionnelle de cette dernière scène. Il faut savoir que dans le cinéma, il y a parfois des films où la dernière scène est vraiment très très forte et très originale. Et cette dernière scène en fait partie. Le proxénète Joaquin Phoenix finit par accompagner Cotillard sur l'île et à faire sortir sa sœur. Donc, quand elle fait sortir sa sœur, elles vont partir sur une embarcation. Et Joaquin Phoenix reste à terre. Et il y a une longue discussion où il y a cette phrase magnifique. Joaquin Phoenix dit « Si tu pouvais lécher mon cœur, il aurait le goût du poison ». Donc c'est déjà une très belle phrase. Alors le plan complexe final, on a au milieu de l'écran l'encadrement d'une fenêtre. Et on voit le bateau avec les deux jeunes femmes qui part. Et sur le côté de la fenêtre, il y a un miroir tourné vers le spectateur. Et dans lequel on va voir Phoenix avancer vers le fond de la pièce, ouvrir la porte et partir seul. Donc c'est une scène d'un sens particulièrement profond et d'une très grande tristesse ou d'une très grande violence. Et vraiment, bon, je vous livre la fin, mais je dirais, c'est parce que c'est vraiment trop intéressant que cette fin-là, d'un film qui, encore une fois, pour moi, est un des plus beaux films de James Gray. Alors, il reste encore à évoquer The Love City of Z. The Love City of Z, là aussi, œuvre originale. De quoi s'agit-il ? On a un militaire qui n'arrive pas à trouver sa voie ou être accepté dans ce milieu social parce que son père avait été sans aucun intérêt, il n'y avait pas un gros statut social et en plus il avait été avec une réputation d'alcoolique et de joueur. Donc on pourrait dire que pour essayer de faire une évolution sociale et qu'on oublie son père, il va partir dans une direction assez originale souhaitée par la Société géographique de Londres. On lui demande de partir en Bolivie au Brésil pour essayer, à l'époque les frontières ne sont pas très très bien marquées, d'essayer de cartographier ces zones sur la frontière entre Brésil et Bolivie. Donc il accepte la mission, il va partir et... Une fois qu'il a avancé dans l'Amazonie, il va être bloqué, il va être obligé de revenir et de présenter à cette société géographique ce qu'il a vu et ce qu'il pense pouvoir donner comme élément nouveau. Et il va affirmer qu'il existe une civilisation ancienne en Amazonie, et il va l'appeler Z, et ces civilisations seraient aussi originales que les civilisations occidentales. Alors là, bien sûr, la société ne peut pas accepter. C'est une remise en cause, en quelque sorte, de la supériorité de ces Occidentaux sur des civilisations inférieures. Et donc, il va être hué et on va le critiquer en disant que ça ne vaut rien. Donc du coup, il va essayer de repartir avec notamment une plus grande proximité avec son fils, qu'il a délaissé, qu'il n'a pas vu grandir. Et on va le voir partir dans cette forêt amazonienne. Il ne va pas en revenir. Et on peut penser qu'il aura fini peut-être par trouver cette cité. Mais tout cela reste incertain. Donc un film original dans l'œuvre de James Gray. Et le suivant aussi sera particulièrement original. Mais d'abord, écoutons la musique de The Lost City of Z. Ad Astra, c'est le nouveau film en 2019. Alors, il touche là à la science-fiction. Science-fiction, bon, étonnant parce que son œuvre ne semblait pas le conduire vers cela. Mais science-fiction avec toujours le rapport père-fils. On n'en sort pas, toujours présent. Et ici, il s'agit d'une action qui se situe à la fin du 21e siècle. Et le héros joué par Brad Pitt va être chargé d'une mission particulière, c'est-à-dire retrouver son père. Il y a donc cet astronaute qui est joué par Tommy Lee Jones, qui est parti et qui se retrouve donc en situation de... il a disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu, peut-être est-il mort. Donc du coup, on va demander à Brad Pitt de partir vers Mars pour essayer de rétablir le contact avec son père. Donc il y a chez son père une qualité qui a conduit à être envoyé là-bas, c'est la capacité à connaître les données sur est-ce que les humains sont seuls dans la galaxie, est-ce qu'il y a une possibilité de vie dans la galaxie. Et ceux qui envoient Brad Pitt se disent peut-être va-t-on trouver une vie, peut-être va-t-on trouver un message venant de son père. Bon, en réalité, pour faire un coup, il va retrouver son père. Et celui-ci va entamer un dialogue avec lui. Il va demander à son père de revenir sur Terre. Mais à un moment donné, où il y a un problème de... alors c'est les problèmes classiques, combinaison spatiale qui est abîmée, etc., etc. On sort dans l'espace, mais ça ne marche pas. Donc finalement, le personnage de Tommy Lee Jones, le père, va se sacrifier et disparaître. Et finalement, on a une fin qui est, je dirais, assez rare en science-fiction. On constate qu'en fait, les humains sont les seuls dans la galaxie. Il n'y a pas d'autre vie dans la galaxie. Donc, fin originale, parce que toutes les œuvres de science-fiction finissent par expliquer qu'à tel ou tel endroit, il y a une vie, qu'on va la trouver, etc. etc. Donc, ce n'est pas le cas ici, et la fin est un petit peu étonnante dans la mesure où, justement, on ne trouve rien. Voilà. Alors, dernier film de James Gray, Armageddon Time, 2022, donc il est sorti il y a quelques semaines, et il a été présenté en compétition à Cannes. Alors, ce qu'on peut dire d'ailleurs sur James Gray et les festivals, c'est que de très nombreux films de James Gray ont été présentés dans des festivals. Et là où, je dirais, il y a une injustice, James Gray a présenté plusieurs films au Festival de Cannes, il n'a jamais eu de Palme d'Or. Or, il mérite la Palme d'Or pour certains de ses films. Armageddon Time, peut-être pas, mais d'autres films, oui. Et je considère que c'est un des grands non-palmés, si je puis dire, parce que ces films sont quand même extrêmement intéressants. Et il est triste que dans d'autres festivals, il ait pu avoir des prix, et qu'au Festival de Cannes, jamais il n'ait bénéficié à Palme d'Or. Alors ça viendra peut-être, mais pour le moment, certains films qui ont été présentés le méritaient, mais ils ne l'ont pas, ils n'ont pas été assez bons aux yeux du jury pour être palmés. Alors, ce dernier film, Armageddon Time, là, ce n'est pas l'image du père, c'est l'image du grand-père. Le grand-père, joué par Anthony Hopkins, a un rapport privilégié avec son petit-fils. Alors, ce petit-fils est grandi dans le Queens, toujours l'aspect autobiographique. On considère sur ce film-là que c'est la situation la plus autobiographique dans la filmographie de James Gray. Il est à l'école, il n'est pas très aimé par ses camarades, il va se rapprocher d'un jeune noir. Et cela, à l'époque où la situation se passe, est peu apprécié. Donc les camarades vont mettre à l'écart, notamment à cause de cette amitié pour ce noir, le personnage, qui est le personnage, donc héros, qui s'appelle Paul, qui est dans une situation où il ne sait pas trop comment il va évoluer. Alors son grand-père lui dit d'être un homme, hein, il dit un mensch, et il faut pour cela qu'il s'affirme et notamment qu'il puisse reconnaître et protéger ce jeune noir. Alors en réalité, la fin, je dirais, est assez pessimiste, puisque ils vont commettre un délit, ils vont rentrer dans l'école pour piquer un ordinateur, et l'initiative de cela, c'est le jeune Paul. Donc, le jeune noir a suivi en réalité. Ils vont être arrêtés tous les deux parce qu'il essaie de fourguer cet ordinateur. La police intervient, il interroge les deux suspects. Et finalement, le jeune va s'en sortir, le jeune Paul va s'en sortir parce que son père connaît bien un des policiers. Et grâce à ce rapport à le policier le fait sortir. Le jeune Paul hésite en disant « mais c'est plutôt moi qui suis coupable ». Mais le jeune noir préfère se sacrifier. Et finalement, on a cette fin où le jeune Paul va abandonner à la prison celui qui était son ami. et donc fin qui était plutôt triste. On finit quand même dans ce film, toujours sur la famille. Je dirais que par rapport à d'autres films de James Gray, ce n'est peut-être pas le meilleur. Encore une fois, il faudra peut-être attendre encore quelques années pour qu'il ait la Palme d'Or, mais j'espère qu'il aura un jour cette Palme d'Or. Donc voilà pour ce James Gray dont vous connaissez peut-être certains films, mais qui est vraiment un réalisateur intéressant par le maintien d'une thématique permanente. Et il me semble que ça valait le coup de montrer comment James Gray était original. Donc voilà pour James Gray, voilà pour aujourd'hui. Nous allons arrêter en disant James Gray, génial. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Chéliane Ahamada. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de l'association Esprit Occitanie, ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.